Chapitre 5. Au-dessus du sol. Pour reposer notre lecteur de sa longue excursion souterraine, nous allons faire avec lui une visite dans l'heureuse Campanie, ou dans la Campanie bénie, comme un auteur ancien l'eût appelé. Nous y avons laissé Fabiola, troublée par les sentences philosophiques qu'elle avait rencontrées sur son chemin. Elle se dressait devant elle comme des pensées venues de notre monde, qu'elle lisait sans en saisir complètement le sens. Elle désirait pénétrer ce sens mystérieux qu'elle pressentait, sans oser cependant interroger personne à ce sujet. La jeune patricienne reçut dès le lendemain de nombreuses visites, qui se succédèrent pendant les jours qui suivirent. Elle pensa souvent à montrer ses sentences mystérieuses. Elle pensa souvent à montrer ses sentences mystérieuses à l'un ou l'autre de ses visiteurs, mais malgré ses efforts, elle ne put s'y décider. Une noble dame, qui puisait sa froide vertu dans une philosophie austère, vint voir Fabiola. Elles parlèrent des opinions philosophiques qui avaient la vogue du moment. La jeune fille prit la feuille de vélum afin de consulter son amie, puis tout à coup elle la repoussa. Il lui semblait qu'elle allait profaner cette feuille mystérieuse. Un savant, versé dans toutes les branches de la littérature et de la science, vint ensuite lui faire une longue visite et lui parla avec éloquence des vues sublimes des écoles anciennes. Fabiola fut tentée de consulter sur sa découverte, mais elle lui parut contenir quelque chose de trop élevé pour qu'il pût le comprendre. Il est étrange de penser que toute sagesse et toute consolation ne dussent venir à la haute et noble romaine que lorsqu'elle s'adressait à son esclave chrétienne. Après les jours de visites et de réunions, le premier moment où Fabiola se trouva seule avec Syra, elle alla placer son précieux parchemin sous les yeux de l'esclave. Une profonde émotion que sa jeune maîtresse ne put observer se peignit sur les traits de Syra. Mais ce fut un éclair qui passa vite, et elle était parfaitement calme quand elle eut achevé sa lecture. J'ai trouvé cette inscription sur le verso d'une note que j'avais prise par erreur à la villa de Chromatius, dit la jeune fille. Et depuis ce temps, mon esprit est troublé par ces paroles mystérieuses que je ne puis comprendre. Pourquoi donc, ma noble maîtresse? Elle me semble pourtant bien claire. Oui, et c'est leur précision même qui me trouble. Ma nature se révolte contre les sentiments qu'elles expriment. À mes yeux, un homme qui ne sent pas une injure et qui ne rend pas haine pour haine est méprisable. Pardonner le mal, c'est déjà beaucoup, mais rendre le bien pour le mal, c'est là une action qui n'a rien de commun avec notre nature humaine. À présent, lorsque je songe à toutes ces choses, je me rappelle que j'ai été amené à vous estimer en vous voyant tenir une conduite si différente de celle qu'on peut attendre de notre nature. Oh, ne parlez pas de moi, ma chère maîtresse. Regardez seulement le principe que vous estimez dans les autres. Méprisez-vous ou honorez-vous Aristide lorsque, pour obliger un grossier ennemi, il écrivit, à la demande de ce dernier, son propre nom sur la coquille de bannissement. Vous, noble dame romaine, honorez-vous ou méprisez-vous Coriolan, qui pardonna si généreusement à votre ville natale? Je les vénère tous deux, je vous l'assure, Syra, mais ce sont là des héros et non des hommes ordinaires. Pourquoi ne serions-nous pas tous des héros? Demanda Syra en souriant. Que le ciel nous en préserve, enfant. Si cela était, dans quel monde vivrions-nous? Il est très intéressant de lire les actions de ces personnages extraordinaires, mais il serait fort triste de les voir accomplis chaque jour par le commun des hommes. « Comment cela ? » interrompit la servante. « Vous ne le comprenez pas ? Et quelle mère aimerait à trouver l'enfant qu'elle nourrit, jouant dans son berceau en étranglant des serpents ? Je serais désolée pour ma part d'inviter à ma table un jeune patricien qui m'annoncerait froidement que le matin même il a tué un minotaure ou étranglé une hydre. Je ne serais pas plus fière d'avoir un ami qui m'offrirait de faire passer le Tibre par mes écuries pour les nettoyer. Que les dieux nous préservent d'une génération de héros. » Fabiola riait de bon cœur en exprimant son opinion. Syra, qui semblait partager sa gaieté, reprit ainsi. « Mais supposons que nous avons le malheur de vivre dans un pays infesté de monstres, tels que les centaures, les minotaures, les dragons et les hydres. Ne seraient-ils pas heureux, alors, que le commun des hommes se composât de héros qui pussent les exterminer, au lieu d'être obligés d'envoyer chercher au bout du monde un Thésée ou un Hercule capable de les détruire? Dans ce cas, l'homme qui les combattrait serait-il plus héroïque que ne le sont dans mon pays les tueurs de lions?
C'est très bien, Syrah, mais je ne saisis pas l'application de votre idée.
La voici. La colère, la haine, la vengeance, l'ambition, l'avarice sont, à mes yeux, des monstres aussi redoutables que les serpents ou les dragons. Ils attaquent les hommes ordinaires aussi bien que les héros. Pourquoi donc n'essaierais-je pas de les combattre comme Aristide, Coriolan ou Cincinnatus l'ont fait? Pourquoi laisser faire seulement aux héros une tâche que je pourrais accomplir aussi bien qu'eux? Pensez-vous que ce soit là un principe de morale pratique? Dans ce cas, je crains que vous n'ayez de trop hautes visées.
Non, chère maîtresse, vous avez été surprise quand je vous ai dit que la vertu intérieure et invisible était aussi nécessaire que la vertu extérieure. Je crains de vous étonner plus encore.
Allez, ne craignez rien et dites-moi tout.
Très bien. Alors voici le principe de la doctrine que je professe. Nous devons pratiquer et accomplir chaque jour comme une vertu fort ordinaire et comme un simple devoir quotidien ce que les autres lois, si sublimes et si pures qu'elles paraissent, considèrent comme des actes héroïques de vertu transcendante. C'est là, en vérité, sans doute, l'idéal de la morale la plus sublime. Mais remarquez la différence entre les deux cas. Le héros marche entouré et soutenu des louanges du monde. Quand il réprime ses passions et qu'il accomplit une action sublime, il sait que ses efforts, que ses travaux sont conservés, et transmis comme des modèles à la postérité. Mais qui peut voir, qui note les actions du pauvre ignoré, qui, dans son obscurité profonde et loin de tous les regards, imite sa conduite?
Syrah, dont l'attitude et le geste prirent un caractère solennel, leva les yeux et la main droite vers le ciel, puis elle dit lentement « Son Père qui est dans le ciel, qui fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant, et qui répand sa rosée sur le juste comme sur l'injuste. » Fabiola, intimidée, s'arrêta un instant, puis répondit avec une expression d'affectueux respect.
« Encore une fois, Syrah, vous avez vaincu ma philosophie. Votre sagesse est aussi solide qu'elle paraît sublime. Vous proposez comme le devoir ordinaire de chacun une vertu héroïque et sans récompense de la part des hommes. » Pour atteindre ces hauteurs, l'homme doit dépasser de beaucoup l'idée que nous nous faisons des dieux. Cette idée seule constitue une philosophie. Me conduirez-vous plus loin encore?
Oh oui, bien plus loin encore.
Et où donc me laisserez-vous à la fin?
Où votre cœur me dira qu'il a trouvé la paix.